Merci pour l'invitation. C'est très agréable d'être ici aussi parmi vous ce matin. Quel cumprimentar os irmãos que falam português. A paz do Senhor est muito bom ouvir as suas orações. C'est vraiment un plaisir. C'est vrai qu'on a été, on a travaillé aux îles du Cap-Vert pendant quelques années. Puis après, donc c'est le pays d'origine de mon épouse. Et puis ensuite, nous avons été pasteurs des églises Assemblées de Dieu de langue portugaise en Suisse, à Genève, Lausanne, Berne, Zurich, Lucerne. Voilà. Donc on était déjà habitués un peu à bouger, pas mal. Ça continue. Voilà, c'est un plaisir aussi de pouvoir partager avec vous la parole du Seigneur. C'est vrai que c'est toujours un peu compliqué lorsqu'on ne connaît pas l'assemblée ou qu'on va rencontrer, mais j'étais content de voir quelques personnes dont je me rappelle. Et c'est un bonheur. Alors, c'est une parole très simple que je vais vous partager ce matin. Il y a une des caractéristiques de l'être humain, c'est son besoin de trouver des modèles, ou du moins un modèle, un exemple à suivre. Et puis ça se vérifie dans plusieurs domaines de notre existence. Alors, il y a certains modèles qui s'imposent d'eux-mêmes à notre esprit ou à notre âme par leur performance, leur caractère. Alors ils sont une formidable source d'inspiration, un encouragement qui peut aussi nous pousser à aller plus loin, à nous dépasser, à croire, même ce qui nous semblait impossible jusque-là. Puis d'autres modèles sont simplement le produit du vide ou encore un produit de consommation savamment élaboré par des sociétés de marketing, les médias, les réseaux sociaux, il y a un peu de tout. Mais qu'est-ce qu'il en est de notre vie spirituelle? Qu'est-ce qu'il en est de... Quel est ton modèle? Quel est notre modèle? Il n'y a que deux personnes dans la Bible qui ont eu, je dirais, l'audace, le courage ou l'authenticité de se présenter comme des modèles. Seules deux personnes. Et nous on dit « faites comme moi, imitez-moi, suivez mon exemple ». Jésus lui-même a déclaré « je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait ». Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et il le répétera un peu plus tard, voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Et le second, c'est Saul de Tarse, l'apôtre Paul, qui dira à plusieurs reprises, même à de nombreuses reprises, imitez-moi, comme moi aussi, j'imite le Christ. Au chrétien d'Éphèse, il écrit « Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous. » Donc il est important que nous comprenions qu'il s'agit plus que d'une identification, que d'une imitation, de suivre le comportement d'une personne ou sa manière de faire, d'être, comme ça, mais c'est d'une vie nouvelle que nous recevons. Quand j'ai reçu cette parole de Jésus, « Toi, suis-moi !» Il ne s'agissait pas à ce moment-là d'un changement dans ma manière de vivre, de parler, d'agir ou quoi que ce soit, une sorte d'amélioration de ma personne, ni comme une mise à jour, on va améliorer un petit peu le Samuel là, qui était là, pas trop mauvais quand même, mais c'est sa vie à lui-même que j'ai reçue, c'est la vie divine de Jésus que nous recevons lorsque nous croyons en lui, celui qui a le Christ, celui qui a le Fils, a la vie, c'est la vie de Dieu lui-même que tu as reçue. Tu n'as pas à chercher à te perfectionner toi-même, à chercher à t'améliorer. On va lire maintenant une parole de Jésus qui m'a complètement révolutionné et qui, je crois, aussi peut et va aussi révolutionner ta vie chrétienne, si ce n'est pas encore déjà le cas. C'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, et au verset 22, dans Jean, chapitre 17, verset 22. Deux petits versets. Jean 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Que tu les aimes comme tu m'aimes. Écoute bien cela. Dieu nous aime comme il aime Jésus. Dieu t'aime comme il aime Jésus. Alors, un petit exercice, j'aime bien faire travailler un peu les gens. Tu vas répéter après moi. Dieu m'aime comme il aime Jésus. Pour être sûr que ça rentre bien, Dieu m'aime comme il aime Jésus. Dans sa prière, Jésus demande que le monde qui nous entoure puisse reconnaître cette vérité. C'est sa prière de Jésus. Que le monde reconnaisse que Dieu le Père nous aime comme il aime Jésus. Mais avant que cela puisse arriver, avant qu'il puisse s'en apercevoir, il est nécessaire que cette vérité habite, qu'elle s'imprègne dans notre vie, dans notre cœur, qu'elle domine en nous, en premier lieu. Alors, je crois qu'en théorie, beaucoup de chrétiens croient que nous avons un Père plein d'amour dans le ciel. On l'a chanté ce matin. Nous avons un Dieu qui nous aime. Mais le fait que la plupart soient tellement préoccupés, affairés, anxieux, en proie à toutes sortes de craintes ou d'insécurités, ce fait-là démontre que soit ils n'y croient pas de tout leur cœur, soit ils n'en connaissent pas véritablement la réalité. J'oserais même dire que le nombre de chrétiens qui osent croire que Dieu les aime autant qu'il aime Jésus est encore plus réduit. Alors je vous avoue que moi non plus, je n'aurais jamais osé croire une telle affirmation si Jésus lui-même ne l'avait pas affirmée de manière aussi claire. Quand les yeux de ton cœur s'ouvrent à cette vérité si glorieuse, alors toute ta perspective de la vie, toute ta vision du monde change. Il y a une profonde transformation qui s'opère dans ta vie, dans ton cœur. La dépression, les râleries, toutes sortes de ténèbres disparaissent alors complètement de ta vie. Je le sais parce que c'est ce qui m'est arrivé. Alors, tout a commencé, je vais vous donner quelques paroles de mon témoignage. Tout a commencé quand j'avais encore que 15 ans. J'avais une enfance, une adolescence, heureuse. Tout allait pour le mieux. Des parents merveilleux, des facilités scolaires, des super amis, une vie sportive. Je croquais la vie à pleines dents. Et j'avais juste ce qu'il me fallait comme religion. Je lisais la Bible, c'est pas mal quand même. Je priais, pas mal. J'accompagnais mes parents au culte. Et en fait, si on m'avait posé la question, est-ce que tu es chrétien? Je dis oui, moi je suis chrétien, voyons. En tout cas, je ne suis pas musulman. Je suis chrétien et beaucoup de gens pensaient que oui, Samuel, c'est bon, quoi. Mon hobby, c'était le cyclisme. Et j'ai commencé la compétition comme cadet. Et tout mon temps libre et le peu d'argent que j'avais, tout y passait, en fait. Et c'était le mois de juin, je suis parti avec un ami pour une virée de près de 120 km. C'était une belle balade avec plusieurs cols à la clé. Il faisait grand beau, donc tout allait là aussi pour le mieux. Et puis dans la descente d'un col qui s'appelle le col du Marchiru dans le Jura vaudois, j'étais en pleine recherche de vitesse. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu des cyclistes dans la position qu'on appelle aujourd'hui la position Froome. Vous avez le menton qui touche presque la roue avant. Donc j'étais là comme, je ne sais pas en quelle vitesse on va quand on fait ça. Mais... Et puis, c'est juste très grisant. Et dans un virage, à la courbe, j'ai dérapé. Manque de peau, une voiture arrivait en face. Alors, je lui ai bousillé la calandre. Ma tête s'est retrouvée contre la roue avant, sans casque, bien sûr, à l'époque. Donc, amené d'urgence à l'hôpital de Morges, je suis tombé dans un état semi-comateux. Et alors, j'entendais tout ce qui se passait autour de moi, mais impossible d'interagir, de répondre, même de faire des gestes. Hein, c'était assez particulier comme situation. Et à mon arrivée, le médecin a dit à mes parents, s'il survit, ce sera avec de très graves séquelles. J'avais l'os du rocher en miettes. Et puis voilà, donc c'était un état vraiment préoccupant. Et moi, je me sentais en train de mourir. C'est bizarre, c'est comme si c'est une sensation étrange. C'est comme si la vie me quittait mon corps par les pieds. Ça partait, la vie partait. Et puis, le pire, en fait, c'était l'angoisse que je ressentais. Il y avait une angoisse terrible qui a commencé à habiter mon cœur. Et je savais très bien que j'allais mourir. Et j'étais terrorisé à la pensée, tu vas rencontrer Dieu, et tu ne le connais pas. Je savais pertinemment que même si j'avais un peu de religion, malgré mon petit vernis religieux, même si j'avais tué personne sur cette planète, je savais que je n'avais pas cherché, je ne m'étais même pas préoccupé de connaître qui était Dieu. Et j'allais le rencontrer, et une angoisse horrible m'habitait. Et j'entendais ma maman prier à côté de moi, mais la situation empirait. Et puis à ce moment-là, pour faire court, il y a un missionnaire qui était venu apprendre le français à Lausanne, un missionnaire américain, juste avant de partir au Togo. Il a entendu parler d'un jeune homme qui était entre la vie et la mort, à l'hôpital. Il est venu me voir, il est venu me visiter. Et là, je l'ai entendu dans son français, un peu compliqué. Je l'ai entendu lire dans les évangiles le récit de la mort et de la résurrection de Jésus. Alors, je connaissais l'histoire. Mais là, il y a eu comme une explosion dans mon cœur, dans ma vie. C'est une explosion, une déflagration. J'ai été inondé d'un amour extraordinaire qui a envahi mon cœur, qui a envahi tout mon être. Et ma culpabilité, l'angoisse, tout ce qui serrait mon cœur a disparu d'un seul coup. Ça a été là, une libération. J'ai été inondé de cet amour extraordinaire. Je me savais à ce moment-là aimé par Dieu, qui avait tout donné pour moi, qui avait donné ce qu'il y avait de plus précieux, son fils Jésus, alors que moi, j'avais conscience que je ne pouvais rien lui donner. Je n'avais plus rien, j'allais mourir. Et à ce moment-là, tout a changé. Je savais aussi que même si je mourais, la minute qui suivait, il m'accueillerait dans sa présence. Le ciel, à ce moment-là, a rempli ma chambre d'hôpital. Et cet homme est parti sans que je puisse lui dire ce qui s'était passé. Je l'ai retrouvé quelques années plus tard au Togo. C'est la grande surprise. Ah, il était tout content quand même. Hein. Enfin, mon état s'aggravait. Puis quelques jours après, le pasteur de mes parents est venu avec plusieurs frères... plusieurs hommes de l'Église, je veux dire des gens normaux, hein, ce n'étaient pas des extraterrestres, hein, je les ai connus après, il y en a un qui était peintre en bâtiment, l'autre qui était mécanicien à l'arsenal, voilà, c'est des gens normaux. Et ils m'ont dit, je les ai entendus dire, hein, j'entendais seulement, « Samuel, nous croyons que Jésus guérit encore aujourd'hui les malades. Nous allons prier pour toi et nous nous attendons à ce qu'il fasse un miracle dans ta vie. » Moi, j'avais qu'une envie, c'est de leur dire « Oui, je crois aussi !» Il n'y a rien qui sortait. Et puis, donc, je les ai entendus prier, et rien ne s'est passé. Mais rien. Ils sont sortis de la chambre, rien ne s'était passé. Mais moi, là, au fond de mon cœur, je savais que Jésus m'avait guéri. Je savais pertinemment. C'est Jésus qui m'aime tellement. C'est ce Jésus qui me guérit. Et puis, voilà, dès cet instant, mon état a commencé à s'améliorer. Je suis sorti de mon état semi-comateux. Après 10 jours, je me trouvais devant le médecin qui m'avait accueilli, réceptionné plutôt comme ça, le premier jour. Et je l'ai entendu me dire « Jeune homme, je n'ai pas de mots pour expliquer cela. Voici les radios à votre arrivée. Voici celles que nous avons fait ces derniers jours. Ça devrait être l'inverse. Il n'y a plus aucune trace de fracture de l'os du rocher. » Il dit, c'est même pas comme si ça avait été recollé. Il n'y a plus aucune trace. C'est comme si jamais rien ne s'était passé. Alors, ils avaient peur pour moi, pour la suite, que j'ai des difficultés de concentration, que voilà, que voilà. La vie était encore plus belle après. Mais c'était le début, surtout, d'une ma belle aventure avec Dieu. Cette découverte, toujours présente, de son amour infini pour moi. J'aime cette parole de David qui, pour moi, elle résume exactement ce que j'ai pu vivre. C'est dans le psaume 18, verset 22, il dit, on la trouve deux fois dans la Bible, c'est quand même bien. Il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. C'est juste ça, juste parce qu'il m'aime. Et ce matin, je suis venu te dire que Dieu t'aime exactement de la même manière et tout autant qu'il aime Jésus. Quand un chrétien reçoit cette révélation, il peut voir que tout ce qui se trouve sur son chemin a été permis par un Père plein d'amour. Tout ? Vraiment tout ? Eh oui, parce que le Père nous chérit comme la prunelle de son œil. Il te chérit comme ce qu'il y a de plus précieux dans tout l'univers. Il n'y a aucune circonstance de notre vie qui devrait nous faire râler, même pour les Français, ou nous plonger dans la déprime. Nous pouvons apprendre, comme le dit Paul dans sa lettre aux Philippiens, le secret d'être content. Il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous, je répète. » J'ai appris en toutes circonstances à être content de ce que j'ai. Je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans la disette. L'important, je peux tout vivre grâce à celui qui me fortifie. Donc c'est une dynamique extraordinaire qui se met en place dans ta vie et qui a pour fondement cette certitude inébranlable. Dieu t'aime de la même manière et tout autant qu'il aime Jésus. Tout autant. Ce n'est pas parce que tu pries, ce n'est pas parce que tu ne jeûnes pas assez que tu n'as pas une vie victorieuse. La victoire, elle ne vient pas de nos efforts surhumains, mais elle vient par la foi. Et puis, oh, la foi, là, c'est un grand mot, la foi. La foi en qui que quoi, hein ? La foi dans l'amour parfait que le Père, que Dieu a pour toi. Ce n'est pas simplement une technique d'avoir la foi dans ce que Dieu dit. Ce n'est pas une technique de se convaincre soi-même ou de se laisser convaincre par les autres. C'est la foi qui vient lorsque tu reçois la révélation de l'amour de Dieu pour ta vie. Et ça, c'est inébranlable. Inébranlable. Je connais malheureusement bien de chers enfants de Dieu qui vivent sous une condamnation diabolique. Ils écoutent Satan qui leur dit sans cesse « Tu ne jeûnes pas assez. Tu ne pries pas assez. Tu ne témoignes pas assez. Tu n'étudies pas assez la Bible, etc. » La liste, elle est longue. Hein. Alors, c'est peut-être vrai. Peut-être bien que tu pourrais prier davantage. Peut-être bien que tu pourrais jeûner davantage. Peut-être bien que tu pourrais lire davantage ta Bible, etc. Mais pourtant, c'est une véritable tromperie. Et ça marche. Ces chers chrétiens se laissent entraîner dans un circuit infini d'activités, s'embourbent aussi dans une multitude d'œuvres mortes. Faire, 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 faire. Ça vous étonne peut-être que l'autodiscipline, une certaine lecture de la Bible, le jeûne, la prière, l'évangélisation même, puissent être des œuvres mortes. Je pensais pourtant qu'un bon chrétien, il faisait ça. Et pourtant, c'est le cas lorsque ces activités ne puisent pas leur origine dans l'amour de Dieu. Et elles ne peuvent avoir l'amour de Dieu pour origine que si tu es pleinement assuré que Dieu t'a aimé le premier. On peut tomber tellement facilement dans un piège où on essaye de plaire à Dieu par toutes sortes de choses, alors qu'il te dit simplement « Mais je t'aime. Point. Accepte-le. » La prière de Paul pour les frères et sœurs d'Éphèse était qu'ils soient enracinés et solidement fondés dans l'amour de Dieu. Cette prière, elle est très utile, vous pouvez la trouver dans Éphésiens chapitre 3. « C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent comme d'un modèle toutes les familles des cieux et de la terre. Je lui demande qu'il vous accorde, à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur, que le Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui appartiennent à Dieu combien l'amour de Dieu, l'amour de Christ, pardon, est large, long, élevé, profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître. Et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. Honnêtement, ça ne m'intéresse pas de prier en langue, de chanter en langue, ou de même de recevoir les dons d'esprit si je n'ai pas cette communion avec le Christ qui me remplit de son amour, de sa compassion, qui me remplit de ça travaille là au fond de tes tripes. Tu es saisi par l'amour de Dieu, des fois tu es là, tu ne sais même plus comment prier, tu commences à pleurer de joie, de bonheur, parce que tu te sais aimé de Dieu. Les gens d'Éphèse, à qui ces paroles étaient adressées par Paul, étaient-ils déjà convertis ? Oui. Étaient-ils déjà baptisés ? Oui. Avaient-ils déjà été baptisés dans le Saint-Esprit ? Oui. Et pourtant, ils avaient encore besoin d'être fortifiés par le Saint-Esprit dans leur être intérieur et de recevoir une révélation toujours plus grande de l'amour de Christ, de connaître cet amour dans toutes ses dimensions. Quand le Seigneur te confie une œuvre, quand il t'appelle à une mission précise, quand il t'envoie quelque part ou vers certaines personnes, le but, ce n'est pas d'accomplir cette mission. Le but, ce n'est pas de gagner ces gens, ou d'avoir raison. Mais ce qu'il cherche en te confiant cette mission, en t'envoyant dans cet endroit, en te disant « voilà ce que je veux de toi », c'est que ton amour, l'amour qu'il dépose en toi grandisse, que ton cœur s'élargisse et que tu puisses encore plus aimer ces gens vers lesquels il t'envoie, les ressentir vraiment l'amour de Dieu pour eux. C'est ce que Dieu fait. Quand Paul ensuite parle aux Éphésiens du service que l'on peut exercer, des différents ministères, des différents dons, aux chrétiens aussi de Corinthe, lorsqu'il leur parle des manifestations de l'esprit, du surnaturel que Dieu a en cadeau pour tous ses enfants, alors, il a clairement expliqué que ces manifestations de l'esprit ne sont pas contraires à l'amour, mais que sans cet amour, elles n'avaient aucune valeur. Mais rien. L'amour de Dieu doit être la base de notre service chrétien. Allez, je ne résiste pas à la tentation de vous lire ce texte que vous connaissez bien. En effet, supposons que je parle en les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Supposons que j'ai le don de prophétie, que je comprenne tous les secrets et que je possède toute la connaissance. C'est quand même intéressant, hein. Supposons même que j'ai dans toute sa plénitude la foi qui peut transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si même je sacrifiais tous mes biens, et jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enflamme pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal, l'injustice, la triste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. Puis cette parole, l'amour n'aura pas de fin. L'amour n'aura pas de fin. Cette parfaite assurance de l'amour de Dieu. Voilà ce qui permet à notre service de porter du fruit. Pas seulement dans l'immédiat, mais dans la durée. Et Jésus en donne le témoignage quand il parle de sa relation avec le Père et des miracles qu'il accomplit. Il dit vraiment, je vous l'assure, le Fils ne peut rien faire de lui-même, de sa propre initiative. Il agit seulement d'après ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait également, car le Père aime le Fils et il lui montre tout ce qu'il fait. Il donnera même le pouvoir d'accomplir des œuvres plus grandes que toutes celles que vous avez vues jusqu'à présent, et vous en serez stupéfaits. Toutes les œuvres de Jésus avaient pour origine cet amour du Père. Le Père aime le Fils, lui montre tout ce qu'il fait. J'ai commencé à prier comme cela. Seigneur, montre-moi, puisque tu m'aimes, comme Jésus, montre-moi ce que tu fais. Et que je puisse aussi travailler avec toi, que je puisse œuvrer avec toi. Et c'est juste magnifique. Non seulement tu es relax, tu n'es pas là en train de dire « qu'est-ce qu'il faut que je fasse, moi ?» Non, tu dis « Seigneur, montre-moi ce que tu fais. » Et après, tu peux entrer dans ce que Dieu fait. Je croise des gens dans les magasins. Et ça me dit « Voilà, c'est ce qui se passe dans sa vie. Voilà ce que je veux lui dire. Va lui dire. » Alors, je ne viens pas par la personne en disant « Ainsi parle l'Éternel, le maître de l'univers. » Non, je dis « Salut Alfred. » Je pensais à quelque chose en te voyant tout à l'heure. Puis paf, et ça rentre. Et les gens sont touchés. Et puis c'est l'amour de Dieu qui commence à imprégner leur vie jusqu'à ce qu'il y ait une pleine révélation. Jésus dit aussi, le Père aime le Fils et lui a donné plein pouvoir sur toute chose. Donc, pas seulement la puissance, mais l'autorité de Jésus dépend de cet amour que le Père porte à Jésus et qu'il a aussi pour toi. Le monde est rempli de gens, d'hommes et de femmes à la recherche de quelqu'un qui les aime. C'est pour ça que les chansons d'amour, ça marche toujours. Ouais. Je dirais même que beaucoup de chrétiens vont d'église en église désirant tout simplement être aimés. Puis quand ils ne se sentent pas aimés, bah, ils vont ailleurs et puis ça recommence et puis... Certains cherchent l'amour dans des amitiés, d'autres dans le mariage. Mais cette recherche, elle se solde par une profonde déception. C'est comme des orphelins, terriblement insécurisés. Et puis, simplement, après ce qui se passe, c'est qu'il y a une sorte de pitié de soi qui s'installe. C'est terrible. Puis malheureusement, même après leur conversion, beaucoup d'enfants de Dieu restent avec ce sentiment d'insécurité, alors qu'ils n'ont plus aucune raison de continuer à vivre de cette manière. Il n'y a plus aucune raison. La réponse, ce n'est rien d'autre que l'amour de Dieu pour nous. Alors, il dit que tous les cheveux de ta tête sont comptés, qu'il nourrit même les petits moineaux, les milliards de moineaux qui existent sur la planète Terre sont nourris par ton Père. Mais il y a plus que cela. Il a dit, au travers de l'apôtre Paul, lui-même qui n'a pas épargné son propre fils, qu'il a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas tout avec lui ? Alors, je ne vais pas faire beaucoup plus long. Dieu parfois prépare des circonstances de notre vie où nous pouvons être déçus par les hommes, par les femmes, par nos amis, les membres de notre famille, dans un seul but parfois que ça arrive, c'est pour que nous nous attachions à lui et que nous découvrions son amour infini, son amour éternel qui ne faillit jamais. Mais plus encore, il désire que tu puisses comprendre qu'il t'aime comme il aime Jésus. Combien de problèmes seraient résolus dans bien des vies si les cœurs s'ouvraient à comprendre que Dieu t'aime exactement comme il aime Jésus. Ni plus, ni moins. Exactement comme Jésus. Ça ne dépend pas de tes efforts. Il t'aime, un point, c'est tout. Il t'aime. Et puis, cette parole de Jean dit quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. C'est ce qui se passe, c'est lorsque tu découvres l'amour de Dieu dans ta vie. Tu sens que ça déborde. Tu n'as qu'une envie, c'est de le donner à d'autres, de le partager, de le transmettre. Et puis, ce n'est pas tout. Lorsque j'ai découvert que Dieu m'aime exactement comme il aime Jésus, il y a une autre parole qui vient de Jésus. À deux reprises, Jésus dit à ses disciples, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Je vous envoie avec ce même amour. » Et ce matin, j'aimerais simplement qu'on puisse donner au Saint-Esprit la possibilité de, je veux dire, de poursuivre son travail, son œuvre dans nos vies, dans nos cœurs. Paul a dit ceci dans Romains chapitre 5, verset 5. L'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu est déversé dans ton cœur par le Saint-Esprit qui t'a été donné. Et j'aimerais qu'on puisse simplement fermer nos yeux, tenir devant le Seigneur maintenant. Bon, ce n'est pas obligatoire de fermer les yeux, mais simplement ne pas nous laisser distraire et dire au Seigneur, « Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Tu as dit, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. J'y arrive pas. Ce n'est pas possible. Humainement, ce n'est pas possible. Je ne peux pas aimer comme toi. Et tu connais mon cœur, tu connais les blessures de mon cœur, tu connais ce qui fait mal, tu connais mes déceptions, tu connais mes craintes, tu connais ce qui serre mon cœur. Je te prie, viens déposer ton amour dans mon cœur. Viens me révéler ton amour. Viens me révéler l'amour du Père pour moi. Cet amour qui est infini, éternel, tout-puissant, pour tout changer. Je t'ouvre mon cœur. Viens, Saint-Esprit, exerce ton ministère dans ma vie. J'ai besoin de toi. J'ai besoin d'aller plus loin avec toi. J'ai besoin de grandir encore dans cet amour. J'ai besoin de croître encore dans la connaissance de cet amour. Viens à mon aide. Et au nom de Jésus maintenant, je proclame que l'amour de Dieu bannit la crainte. Je proclame que l'amour de Dieu bannit la crainte dans ta vie. Tu as des craintes qui sont venues s'installer dans ton cœur, dans tes pensées, dans tes sentiments. Ça se manifeste même physiquement dans ta vie. Je les bannis maintenant au nom de Jésus. Elles n'ont plus aucun droit dans ta vie. Et je proclame que l'amour de Dieu coule maintenant sur ta vie. Coule, coule. Il vient inonder ton cœur, inonder ton âme. Il vient remplir ta vie. Maintenant, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus.